Au moment où on se parle, le président américain Donald Trump est encore en train de s'adresser à la presse, à ses concitoyens. Il parle de cette journée de la libération. Puis il en a fait quand même beaucoup la promotion de cette fameuse journée-là du 2 avril où il allait... Ça allait être une grande journée, une des plus grandes journées de l'histoire des États-Unis. C'est surtout une histoire de tarifs commerciaux, mais la dernière fois qu'on a parlé de la situation avec les États-Unis et de tout ce qui se passait, on avait invité Farnell Morissette avec nous, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu peut-être sur TikTok, sur Instagram, décortique l'actualité.
Il est son air.
Oui, absolument, et vous l'avez peut-être entendu aussi à notre station sœur, Boulevard 102.1. Farnell Morissette est avec nous en studio. La dernière fois, c'est lui qui nous avait calé. C'est les taux d'intérêt?
Les tarifs.
C'est la bourse. Les tarifs.
Oui, par la bourse. Oui.
Par la bourse, nous avait dit, OK, il n'y aura pas de tarifs, on va remettre ça dans un mois. Mais là, aujourd'hui, c'est plus que la relation canado-américaine. C'est vraiment les Américains face au monde.
Oui.
Et quand il dit la journée de la libération, que c'est grandiose, puis tout ça, est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que c'est dans la réalité, là, c'est une journée qui va vraiment marquer les États-Unis?
Bien, le président Trump est encore en train d'annoncer. Maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que dans les 10 prochaines minutes, il va décider de finir avec une espèce d'annonce que personne ne va venir. Mais comme c'est là... Ça semble pas être aussi grandiose que ça. Ça semble être, bon, des ajustements économiques, certainement. Je pense que si son but, c'est d'envoyer un message, le message a été envoyé au monde au complet dans les derniers mois. Je veux dire, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est dans les derniers jours, une annonce de quasi-libre-échange, de presque de libre-échange entre la Chine, le Japon, la Corée, trois pays qui, historiquement, ne s'aiment absolument pas pour des millénaires d'histoire qui sont tous un peu en train de réaliser que ils avaient tous un peu mis trop d'œufs dans le même panier des États-Unis et puis peut-être qu'ils sont mieux de faire des échanges entre eux. Il y a quelque chose qui se passe mondialement, c'est sûr, mais je pense pas que c'est une espèce de renaissance économique des États-Unis. C'est peut-être une renaissance économique mondiale dans une réalité post-États-Unis.
Mais c'est ça, en fait, qui est spécial. C'est que quand on parle de tarifs douaniers, c'est plus complexe que les grands titres. Parce que dans les grands titres, on va dire, OK, c'est 25, c'est 30, c'est 40%. Puis là, on dit que sur les produits laitiers, par exemple, le Canada qui va jusqu'à du 200-300%, mais il y a tellement de subtilités là-dedans. Et quand Donald Trump fait un grand tableau où il dit « La Chine nous charge tant, nous, on va charger la moitié de ça », ces chiffres-là, il les prend où? Est-ce que c'est
j'aimerais
sur tous les produits?
Vraiment le savoir. J'aimerais vraiment savoir. La ligne officielle, c'est que son gouvernement a fait un sondage, si on veut, a fait un aperçu de tous les tarifs individuels qui sont chargés par les autres pays. Alors, par exemple, les États-Unis, par exemple, c'est un exemple qui ont des tarifs sectoriels, c'est-à-dire importer du sucre aux États-Unis a un tarif. Puis même si le Canada était pour importer du sucre, on le paierait aussi. Mais ça, c'est pas un tarif contre un pays, c'est juste un tarif sur l'ensemble des produits. Alors, on peut imaginer, par exemple, que l'Inde va avoir des tarifs sur des produits technologiques qui viennent de n'importe où dans le monde, mais ça donne qu'il y a beaucoup de produits technologiques qui rentrent en Inde, qui viennent des États-Unis. Alors, les États-Unis, eux, l'interprètent comme un tarif contre eux, même si c'est plutôt un tarif sur... les importations électroniques. C'est sûr que, par exemple, si le Canada a certaines restrictions, c'est pas des tarifs, mais des restrictions sur le commerce de plateformes de streaming, qui, en théorie, s'appliquent aux plateformes de streaming de n'importe où au monde, mais les plateformes de streaming qui viennent du Sri Lanka au Canada, j'en connais pas beaucoup.
Non, c'est ça.
Alors, je peux un peu comprendre le point de vue des États-Unis là-dessus, de voir certains tarifs sectoriels comme étant, à toute fin pratique, des tarifs sur les États-Unis et qu'eux vont répondre avec des tarifs généralisés contre le pays. Mais comment est-ce qu'ils sont capables de vraiment faire l'ensemble, regarder produit par produit, pays par pays, tarif par tarif, en dedans d'un mois, puis arriver à ces chiffres-là, j'ai comme un doute qu'il y a plus du pifomètre qu'autre chose là-dedans.
Je me pose la question, est-ce que le monde est plus apeuré, c'est peut-être pas le mot exact, mais a plus de crainte aujourd'hui, ou les Américains, selon toi? Parce que j'ai comme, tu sais, tu me disais... Si c'est ça, les annonces, on l'avait comme un peu déjà vu venir qu'il allait avoir des tarifs qui allaient être appliqués à l'ensemble du monde, finalement. Mais est-ce, qui peut être plus craintif face à ces annonces-là aujourd'hui, le monde entier ou les Américains?
Bien, le monde entier, je pense, parce que la cible de ça, c'est...
De rendre les États-Unis forts, mais...
Ouais, ben tu sais, rendre les États-Unis forts, il faut quand même... Il y a beaucoup... C'est grand, les États-Unis. La cible, c'est largement les emplois manufacturiers aux États-Unis. Les emplois manufacturiers, en Occident en général. Ça, si on... Dans les deux ou trois dernières générations, le monde des emplois manufacturiers aux États-Unis, dans l'Occident en général, a fondu comme la neige au printemps. Et c'est pas pour rien, c'est parce que bon, ben, le travail manufacturier dans les 30 dernières années était largement basé sur de la main-d'œuvre à rabais, pas très cher. Et là-dessus, les pays occidentaux, les États-Unis en premier, sont pas capables de faire compétition à d'autres pays. Au monde, on pense à l'Inde, à la Chine, par exemple. Alors, l'objectif, c'est qu'en faisant ramener ces emplois-là, ça va aider ces gens-là. Mais ça, c'est un objectif à long terme. À court terme, ça va faire très mal à ces gens-là parce que, oui, peut-être qu'à long terme, ils vont avoir plus d'emplois et les emplois vont être mieux payés, mais il y a comme une montagne à franchir entre les deux, entre quand ces emplois-là vont vraiment revenir en théorie et entre deux, l'augmentation, l'explosion de tous les prix qui viennent de produits qui viennent présentement d'Asie.
Et c'est très particulier comme situation parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un entrepreneur qui exporte aux États-Unis ou qui importe quoi que ce soit. T'sais. Je ne me suis jamais vraiment soucié de tarifs douaniers dans la vie en général. Puis là, depuis deux mois, je fouille là-dessus, ben ouais. J'essaie de comprendre, j'essaie de voir les trucs. Et je ne vois pas beaucoup d'économistes américains qui semblent dire que c'est une bonne idée de faire ça de manière aussi brutale. Les économistes ont tendance à dire que les tarifs, ça peut fonctionner, mais il faut les préparer. Faut les... T'sais, est-ce que... Au niveau de l'économie américaine, ça va faire mal.
Ça va faire très mal. Ça va faire mal à tout le monde impliqué.
Et nous
ça
aussi.
Va nous faire mal à nous. Ça va faire mal au Mexique. Bon, en tout cas, je regarde les annonces. Il n'y a rien de particulier qui vise spécifiquement le Canada, sauf peut-être le monde automobile. On va attendre de voir c'est quoi les détails là-dessus. Mais oui, ça va faire mal à court terme. Les économistes tendent à reconnaître que le libre-échange permet aux pays de se spécialiser, ce qui permet aux pays de faire ce qu'ils font de mieux et échanger pour le reste. C'est très vrai, sauf qu'il faut réaliser encore une fois que ben, dans quoi les États-Unis se spécialisent, c'est pas la production manufacturière.
Ouais. Tu dis que ce sera pas bon pour les États-Unis, mais c'est pas nécessairement bon pour nous. Depuis quelques mois, on le sent puis tout ça. Fait que l'impact sur, par exemple, la valeur de la monnaie canadienne à court terme, il y en aura pas parce que même si la valeur du dollar américain baisse, les autres aussi? Ou c'est qui est gagnant là-dedans?
C'est le genre de choses qui devient tellement difficile à prédire parce qu'on est justement en train de faire avec un marteau ce qu'on devrait faire avec un scalpel. Genre de travail-là, justement, on parle de vouloir faire des modifications petites parce que ça prend longtemps entre quand un changement de politique entre en effet et quand on arrive à un point d'équilibre dans l'économie en résultat de ce changement de politique-là. C'est pour ça que généralement les économistes vont dire on fait des petits changements, on les annonce d'avance, on permet au marché de s'ajuster, on en fait d'autres. Y aller avec une masse, comme le fait présentement l'administration Trump, c'est comme lancer un marteau dans un jeu de domino. On ne sait pas comment ça va finaliser. On peut s'imaginer qu'à court terme, les exportateurs vont avoir beaucoup de misère, ils vont être tentés à vouloir continuer à essayer de vendre, quitte à baisser leur prix, ce qui peut avoir comme effet à long terme de réduire la force du dollar canadien. Mais il y a tellement de... C'est une situation chaotique. Essayer de prédire l'effet dans les prochains jours, les prochains mois, c'est assez difficile.
Surtout qu'il va changer d'idée à un moment donné.
Oui, puis c'est ça aussi. Demain matin, il pourrait décider finalement, ah non, je déclare victoire, on annule tout. On sait jamais, là. Oui.
Je vous rappelle qu'on jase avec Fernel Morissette qui décortique l'actualité. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il y a les annonces aujourd'hui qui ont été faites par la Maison-Blanche, par Donald Trump, de ces tarifs réciproques envers les autres. La jour de la libération, en fait, c'est comme ça qu'on l'a qualifié aux États-Unis.
Tu nous as présenté l'image du domino il y a quelques secondes à peine. Là. Il y a des dommages collatéraux. Déjà, on lisait cette semaine qu'il y a des tenanciers d'hôtels, de motels du côté de Old Orchard qui ont déjà excessivement mal, alors que ça n'a pas vraiment rapport, eux, directement avec les tarifs, mais c'est notre façon de répondre. Ça, à moyen-long terme, il y a des entreprises, malheureusement, qui vont fermer, mais combien de temps, nous, on va pouvoir tenir ici puis tenir notre bout de la couverte?
Ça, c'est vraiment une question politique, je pense, puis c'est une question de culture politique générale. C'est intéressant ce qui se passe parce qu'il n'y a pas eu...
D'appels généraux.
Non, c'est ça. Il n'y
a pas d'appel au boycott.
Non, exactement. À ma connaissance, le gouvernement, tant provincial que fédéral, il n'y a personne qui a passé de loi rendant ça plus difficile de se rendre à Old Orchard pour les vacances. C'est une idée spontanée, culturelle, qui s'est créée chez nous. À quel point ça va tenir longtemps? Ça va ultimement être une question de l'attention politique, beaucoup une question de l'attention médiatique. Combien de temps on va continuer à garder ça de l'avant? Ou est-ce que ça va un jour juste devenir normal, cette espèce de relation tendue avec les États-Unis? Puis les gens vont dire, oh, ben, c'est quand c'est rendu correct, là, je me sens encore bien, ça, je vais retourner l'été prochain. On le sait pas encore, mais ça, c'est un peu entre nos mains, chacun d'entre nous, parce que c'est vraiment spontané, ça vient du terrain.
Puis je comprends le sentiment, mais en même temps, c'est vrai que les Américains, ce n'est pas l'administration.
T'sais, exactement.
Les Américains, on ne peut pas faire une généralisation.
La majorité des gens aux États-Unis ne sont pas favorables à ce que l'administration Trump est en train de faire maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Là. Les gens qui sont en train de souffrir de ça, et même les gens qui vont potentiellement bénéficier de ça, présentement, regarde ça, ils disent « ça n'a pas de bon sens, c'est pas pour ça que j'ai voté, j'approuve pas ça ». Il y a des gens aux États-Unis qui sont favorables à ça, mais c'est la minorité.
Fernand, je me trompe ou on parle moins de fentanyl?
On en parlait encore hier, l'administration Trump, hier encore, quand, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu un moment historique au Congrès hier aux États-Unis, Cory Booker, qui a parlé pendant 25 heures, un peu plus, ce qui s'appelle un filibuster, essentiellement de l'obstruction pour essayer d'empêcher ou d'attirer plus d'attention là-dessus. La raison pour ça, c'est qu'au Sénat, présentement, il y avait une motion débattue pour essayer d'infirmer la raison d'être, pourquoi le président Trump peut imposer les tarifs, et la raison qu'il est capable de le faire, c'est parce qu'il existe dans la loi des États-Unis un pouvoir discrétionnaire du président d'imposer, entre autres, des sanctions économiques au nom de la protection des frontières contre les drogues. Alors, M. Trump est obligé de trouver un prétexte légal pour pouvoir appliquer les tarifs qu'on s'entend, on voit tous à travers son jeu, c'est des tarifs, c'est des mesures économiques. Mais ces mesures-là, normalement, appartiennent au Congrès pour que le président agisse de façon unilatérale. Il est obligé d'avoir un prétexte de sécurité nationale et utilise le fentanyl. Alors, encore hier, quand c'était au Sénat, cette motion-là en train de se faire débattre, là, soudainement, on a crié au fentanyl, on a parlé que comment le Canada laisse trop rentrer du fentanyl, que c'est une invasion de fentanyl, quand, en réalité, je pense que la quantité de fentanyl qui a été saisie à la frontière, c'est dans l'ordre de moins d'un kilo, un kilo et demi, tandis qu'il y a, je pense que j'ai le chiffre, j'ai une livre et demi, tandis qu'il y a à peu près 20 000 livres de fentanyl qui sont saisies au sud. Alors, on s'entend que c'est pas une vraie problématique.
Tu sais, aujourd'hui, il y a Tesla, par exemple, avec comme quoi Elon Musk finalement quitterait un peu, ce serait bientôt annoncé comme quoi il quitterait son rapprochement avec l'administration Trump, ce qui fait en sorte que l'action de Tesla a bougé à la hausse. Puis j'ai vu certaines personnes dire, c'est comme si... Est-ce quelqu'un qui s'en met plein les poches là-dedans en, hein, justement, torpillant l'action de Tesla pendant quelques semaines? Puis là, il part. Fait que là, t'as acheté quand ça valait pas grand-chose et maintenant, ça va reprendre la valeur parce que là, il part. Et d'autres... Parce que la bourse est complètement farfelue présentement. Et est-ce quelqu'un quelque part proche de Trump qui voit ça aller ou qui le sait puis qui est capable de s'en mettre plein les poches?
Ben, si ça se fait, c'est illégal.
Ouais.
C'est extrêmement illégal. Alors, je veux pas imputer sans preuve des gestes illégaux à quelqu'un. Mais mettons que ça serait très difficile à détecter présentement. Mm-hmm. Et s'il y a des gens qui sont très proches de l'administration des États-Unis qui ont, même si c'est juste 5 ou 10 minutes d'avance sur le marché, ces informations-là, il y a des millions à se faire et ça serait extrêmement difficile à détecter et encore plus difficile à prouver après. Alors, je sais pas.
Parce que c'est pas la première fois qu'il y a quelque chose d'illégal collé à Donald Trump.
Choses illégales collées à Donald Trump? Non!
Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Ça serait comme, ben oui, OK, c'est illégal, c'est très illégal. Puis ben, il se passe rien.
Puis il se passe rien.
Ben, je veux dire, pour qu'il y ait des poursuites, il faut que ce soit des poursuites par la Securities Exchange Commission. La Securities Exchange Commission, la SEC, qui fonctionne selon l'autorité présidentielle aux États-Unis. Alors, je veux dire, c'est bien beau que ce soit illégal, mais si la police ne va rien faire, il n'y a rien qui va se faire.
Donc, sachez que les tarifs, la journée de la libération, c'est surtout des tarifs qui sont, en fait, réciproques, comme on a dit, mais c'est comme la moitié de ce qu'eux calculent comme étant les tarifs.
Ben, selon les chiffres qui se donnent, mais encore une fois, qu'est-ce que ces chiffres-là valent par rapport à la réalité, je laisse à chacun le soin de prendre sa propre décision.
Farnell Morissette, qui décortique l'actualité, disponible sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez le chercher. Je pense que tu as pogné quelques personnes hier, dont Nathan, avec le poisson d'avril.
Moi, je ne commente pas les rumeurs là-dessus.
Salut, Farnell. Un week-end radio.